Ciao. La folie est-elle le propre de l'homme? Si l'on en juge par les consultations chez les vétérinaires, les animaux ont aussi leur part de névrose et de troubles du comportement. La psychiatrie vétérinaire est même une discipline en plein développement avec les animaux domestiques. Et le français Claude Beata est un pionnier en la matière. Il a créé avec Boris Cyrulnik et André-Laurent Parodi la société de psychiatrie comparée pour comprendre justement et comparer les émotions, les souffrances psychiques et les affections psychiatriques chez l'homme et l'animal. Et les observations montrent que l'hyperactivité, les troubles bipolaires, anxieux ou dépressifs existent chez les bêtes. Claude Beata est mon invité dans un instant pour parler donc de la folie animale. Il répondra à toutes vos questions, sans doute à vos témoignages sur franceinter.fr et sur le mot-clé l'attaque. Axel Villard, bonjour.
Bonjour.
À la une de la science aujourd'hui, une campagne de fouilles en Corse et une découverte archéologique qui nous fait remonter à 3000 ans.
Oui, et une mission acrobatique pour les archéologues à flanc de falaise dans la cavité de l'Aninca où ils ont extrait deux coffres en bois très bien conservés et les restes de 6 humains datés de l'âge de bronze. On en discute avec le responsable de l'opération, Franck Léandry.
Et c'est Stéphanie Texier qui réalise cette tête au carré préparée par Lucie Sarfati avec Benoît Tonson.
La tête au carré, le magazine scientifique de France Inter. Mathieu Vidard.
Bonjour Claude Beata.
Bonjour.
Vous êtes donc psychiatre vétérinaire. Est-ce que ça veut dire que des chiens et des chats viennent s'allonger sur votre divan?
C'est gentil de me proposer tout de suite de pouvoir rectifier ça. Non, les chiens ne s'allongent pas sur le divan parce que ce que l'on fait, c'est de la psychiatrie, c'est-à-dire de la médecine, et c'est pas de la psychanalyse.
Ouais, ouais.
Donc, bien évidemment, discuter avec le propriétaire. J'attends toujours le premier chien qui viendra seul, mais pour le moment, non. Ils sont toujours venus avec leur propriétaire.
Ouais.
Et donc, non, on fait pas du tout de psychanalyse, c'est une démarche médicale. On fait de la sémiologie, c'est-à-dire on recueille des signes, on a un diagnostic, un pronostic et on propose un traitement.
Et très sérieusement, cette psychiatrie vétérinaire permet aussi à de nombreux chiens d'éviter l'euthanasie quand même. Hein.
C'est la première cause. Les troubles du comportement sont la première cause d'euthanasie et d'abandon des chiens de moins de 2 ans. Mm-hmm. Des chiens qui, par ailleurs, donc, sont dans une parfaite santé physique et qui présentent des troubles qui rendent la vie juste impossible pour les propriétaires. Hein. C'est pas du tout une mise en accusation, c'est que vraiment c'est quelque chose d'important et qu'il faut soigner cette souffrance, il faut apaiser cette souffrance. C'est le rôle du vétérinaire.
Et on va discuter donc ensemble de cette folie animale qui ne concerne pas d'ailleurs que les chiens et les chats. On aura d'autres exemples à donner et vous répondrez donc aux messages des auditeurs qui nous rejoignent. Des restes d'au moins 6 humains, 2 cercueils datant de l'âge de bronze, découverts dans une grotte particulièrement difficile d'accès en Haute-Corse, sont à la une de la science aujourd'hui. C'est une découverte encore très mystérieuse qui nous renseigne en tous les cas sur les techniques de menuiserie et d'inhumation de nos ancêtres il y a 3000 ans sur l'île de Beauté. Et pour en parler, nous sommes avec vous en ligne, Franck Léandry. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes conservateur régional de l'archéologie à la DRAC de Corse. Vous êtes archéologue et responsable d'opérations sur ce site, la cavité l'Aninca, découverte donc en 2015, proche du village de Lanneau, en Haute-Corse. Quelles sont d'abord les particularités, Franck Léandry, de ce site qui, on peut le dire, se trouve au perché, hein, difficile d'accès?
Oui, c'est un site qui se trouve à 850 mètres d'altitude, dans une des zones calcaires de l'île, dans la dépression centrale. C'est un secteur qui compte des réseaux karstiques qui sont régulièrement explorés par les spéléologues. Nous sommes dans un endroit qui est assez isolé, dans une vallée assez encaissée, on va dire, et d'où notre surprise des résultats des prospections menées par les spéléos.
C'est donc les spéléologues qui vous ont conduit dans ce petit trou à flanc de falaise?
Oui, ce sont les spéléos qui nous ont d'abord informés de leur découverte. Au début, on les prenait moyennement au sérieux, je dois dire, puisqu'on pensait que les vestiges qu'ils avaient exhumés remontaient plutôt au siècle dernier. Et puis, de fil en aiguille, après la réalisation d'analyse au radiocarbone, on s'est vite rendu compte que le gisement était exceptionnel. Je dois dire que cette découverte qui relève de deux personnes, hein, Jean-Claude Lamulsa et Jean-Yves Courtois, a fait quand même un petit peu le buzz en Corse. Et voilà pourquoi on s'est investi dessus depuis 2 ans maintenant.
Alors, la fouille n'est pas complètement terminée, mais qu'est-ce que vous avez trouvé pour l'instant ?
Pour l'instant, ce que l'on a trouvé, c'est exceptionnel. D'abord, à l'échelle de la Corse, ce sont ces restes humains qui nous offrent une collection, on va dire, qui va nous permettre d'aborder des questions biologiques sur l'alimentation de ces communautés, le lien de parenté, et puis qui vont nous permettre aussi d'intégrer des études plus globales à l'échelle du peuplement européen en termes notamment d'ADN. Voilà pour l'aspect, on va dire, anthropologique, mais le caractère vraiment exceptionnel de ce gisement vient, comme vous l'avez dit, de la présence des deux contenants de bois qui étaient vides au moment de leur découverte. Et ça, c'est quelque chose d'assez exceptionnel à l'échelle de la Méditerranée occidentale.
J'ai parlé de cercueil tout à l'heure, il faut parler de coffre pour être plus prudent.
Alors, on va parler de coffre ou de contenant pour être plus prudent. On a deux sortes. On a un coffre en bois et puis on a ce qu'on appelle un monoxyle, donc un tronc qui a été évidé, qui ressemble un petit peu à une petite pirogue. Voilà, oui. Voilà un petit peu comment on peut aborder les choses. Et on pense que, comme vous l'avez dit, ça a pu servir de cercueil. Mais ça a pu servir aussi d'ossuaire ou alors ça a pu servir pour contenir un dépôt rituel.
Comment est-ce que vous expliquez que le bois se soit si bien conservé dans cette grotte-là ?
Alors, ce sont les caractères climatologiques particuliers à cette cavité, puisqu'on a l'impression qu'on est dans un véritable séchoir. On a l'air chaud qui rentre d'un côté, l'air froid qui rentre de l'autre. La cavité fait 7 mètres de long sur 1 mètre de diamètre. Et on a l'impression, voilà, que la température est régulée à l'intérieur. En tout cas, on a une température constante de 20 degrés. Et puis, il faut savoir également que ces pièces de bois ont été façonnées dans de l'if, qui est un bois connu pour ses qualités imputrescible.
Est-ce que vous voyez des traces de menuiserie ? Vous en apprenez plus sur les techniques ?
Tout à fait, on voit des traces de menuiserie, on voit des traces de scierie, on voit des traces d'herminettes, d'objets qui ont évidé le tronc. On voit voilà, tout ce façonnage, tout ce savoir-faire qui apparaît sous nos yeux et qui va être, on va dire, analysé de façon un peu plus attentive dans les semaines qui viennent.
Alors, d'un point de vue anthropologique, vous avez parlé de ces 6 restes humains. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus ?
Alors écoutez, comme je l'ai dit, ces restes humains, ils sont en cours d'analyse. Il faut savoir que la cavité n'a pas livré tous ses secrets. Nous avons fouillé plus que 2 mètres carrés hein, pour l'instant. Il y a encore 5 ou 6 mètres carrés à fouiller. Oui, en tous les cas, ça ouvre beaucoup de perspectives en termes de biologie de ces populations. Hein. On va être capable à partir de l'émail dentaire, d'aborder les questions liées, par exemple, à l'alimentation. On va être capable de dire s'il y a un lien de parenté entre ces individus. On va être capable de dire, de développer à l'échelle du peuplement européen, voilà, d'où viennent ces sujets. Voilà un petit peu ce genre de questionnement sur lesquels on travaille. Avec des laboratoires continentaux de Bordeaux et puis même au Danemark également.
On peut imaginer que ce soit des alpinistes qui aient déposé ces coffres dans cette grotte ?
En tout cas, ce sont des gens qui pratiquaient la varap, c'est certain, d'une certaine façon. Mais les bois ont été acheminés vraisemblablement du haut de la corniche avec des cordes. En tout cas, on ne s'explique pas autrement. Quoi.
Ça ferait partie d'une sorte de cérémonie de déposer des corps aussi haut, comme ça,
voilà,
dans une cavité ?
Voilà, l'enjeu des campagnes à venir maintenant, c'est d'essayer de définir ce rituel funéraire, essayer de le comprendre et de l'aborder à partir des questionnements et d'éléments comme, la paléinologie, est-ce qu'il y avait des dépôts de fleurs toutes ces pistes s'ouvrent à nous maintenant grâce à ce gisement.
Franck Léandry, au sujet de cette découverte, on peut lire également l'article de Pierre Barthélémy qui est sorti hier dans le cahier Sciences et Médecine du Monde, qu'on peut lire d'ailleurs sur lemonde.fr. Et puis c'est l'occasion également de rappeler que vendredi, samedi, dimanche vont se dérouler les Journées nationales de l'archéologie. Ce sera la possibilité de découvrir donc près de chez nous, en France, les coulisses du patrimoine et de la recherche dans votre science. Le site journée au pluriel archéologie.fr donne tout le programme des rendez-vous sur le territoire. Vous allez y participer ou Franck Léandry ?
Tout à fait, bien sûr. Nous organisons un gros événement à Corté, au musée de la Corse. Tous les archéologues de l'île seront présents et il y aura des conférences. Et une de ces conférences sera relative justement à cette découverte à l'anneau.
Et si vous voulez voir des photos de cette cavité et des restes, on a mis une galerie sur la page Facebook de l'émission.
Oui, absolument, pour suivre absolument tout ce que vous avez découvert sur place donc en 2015. Merci beaucoup Franck Léandry.
Merci beaucoup
pour vos explications. Merci.
Merci.
Et Axel, à demain.
À demain.
Au revoir.
The Specials avec Gangster sur France Inter. Ce soir, 14 juin à 18h30, c'est la finale nationale de ma thèse en 180 secondes et ça va se passer à la Maison de la Radio, au studio 104 ici à Paris, avec les 16 thésards finalistes qui seront donc sur place pour vous présenter leur sujet de thèse et leur doctorat en moins de 3 minutes. C'est la quatrième année pour ce concours organisé avec le CNRS et la CPU en partenariat avec France Inter et la Tête au Carré. Si vous souhaitez y participer, eh bien c'est donc ce soir 18h30, studio 104, l'entrée est libre dans la mesure des places disponibles.
La Tête au Carré, les mercredis psy et philo, avec Mathieu Vidard sur France Inter.
Et la folie animale, c'est donc le thème de notre dossier dans l'émission avec vous cet après-midi. Claude Beata, vous êtes donc vétérinaire spécialiste en médecine du comportement des animaux de compagnie. Vous êtes membre du Collège européen de médecine vétérinaire comportementale. Vous avez signé entre autres en 2015 chez Odile Jacob au risque d'aimer des origines animales de l'attachement aux amours humaines. Et les auditeurs nous rejoignent déjà avec les questions sur franceinter.fr et sur le mot-clé l'attaque. Encore un mot sur la psychiatrie vétérinaire, qui est une discipline en plein boom là en ce moment quand même, hein.
Oui, avec notamment la reconnaissance. On est une discipline toute jeune, ouais. Puisque le Collège européen a été fondé en 2003, reconnu officiellement donc au niveau européen en 2013, et la France a validé le Conseil de la spécialisation en décembre 2015 et inscrit au journal officiel en 2016. Donc vous voyez, ouais. on a un an à peine.
Il y a beaucoup de choses à faire, effectivement.
Mais donc maintenant, ouais. Ça veut dire que ça installe la discipline réellement comme une discipline vétérinaire à part entière, au même rang que la cardiologie, ouais. L'ophtalmologie.
Ça bouge beaucoup aujourd'hui dans la considération de l'animal, en tout cas.
Je crois que ça bouge pas que sur le plan vétérinaire, sur le plan juridique. Le fait qu'en 2015 aussi, il y a eu ce tout petit bout dans la loi, mais qui change les choses en disant les animaux ont une sensibilité, si vous voulez. Le fait de reconnaître la sensibilité à l'animal, même si on peut se poser la question de cette grande confusion qu'on fait quand on parle de l'animal en général. Pour les vétérinaires, c'est toujours un peu intriguant. Est-ce qu'on parle du chien ou est-ce qu'on parle de la puce? Parce que si on veut débarrasser les chiens des puces, il y a bien un animal auquel il va falloir faire des misères. Donc, c'est au-delà de la plaisanterie, c'est quelque chose qui est compliqué, mais en tout cas, il y a un changement de vision de l'animal. Je crois que les choses qui ont été vues dans les abattoirs. Et beaucoup de choses font que les humains se rendent compte qu'il faut peut-être changer certaines choses.
Ouais. Alors cette folie, est-ce qu'elle est le propre de l'homme? Ça, c'est une question que vous avez posée en conférence. D'ailleurs, il y a une vidéo sur 13 minutes que vous avez fait récemment.
Ouais, tout à fait.
C'est une question qui est intéressante parce que vous pouvez y répondre aujourd'hui justement à la lumière de vos observations tant que vétérinaire. Et puis aussi d'autres exemples qui sont présents dans la littérature scientifique ou même dans les médias parce qu'on entend régulièrement parler d'affaires assez étonnantes de dysfonctionnement animal.
Si vous voulez, il y a deux écueils autour de ça qui sont vraiment très classiques. Le premier, c'est l'anthropomorphisme. C'est de considérer que dès que ça se ressemble, c'est pareil. Et c'est pas du tout notre propos. C'est pas de dire que les animaux sont exactement pareils que l'humain. Mais l'autre écueil, il est encore plus important, j'allais dire, c'est l'anthropocentrisme. Et c'est de considérer que seul l'être humain, lui, par exemple, peut être atteint de folie. On a souvent revendiqué cette folie comme propre de l'homme. Et très clairement, on peut dire non. On voit des animaux sauvages, fous. Alors, quand je dis fou, je mets des guillemets, donc c'est compliqué à la radio. Mais on va dire que c'est un terme simple pour dire pouvant être atteint d'une pathologie comportementale, voire mentale, voire psychiatrique.
Ouais.
C'est-à-dire qu'on reconnaît des états réellement différents, soit des états, tout à l'heure vous avez parlé de névrose, alors on oppose souvent névrose et psychose. La névrose, ça va être la dépression, l'anxiété, tout ce qui fait qu'on est en contact avec la réalité, mais qu'elle est très douloureuse. Alors que les états de psychose, et qui existent aussi chez l'animal, sont des états de déréalisation, c'est-à-dire on perd le contact avec la réalité, l'animal est dans un autre monde, et là évidemment on peut parler de psychiatrie vétérinaire.
Sauf qu'on ne reste pas fou très longtemps dans le monde sauvage.
Ah ben c'est ça.
C'est ce qui la fait sélection que... naturelle fait vite son travail.
C'est ce qui fait que, un, il n'y a personne pour le voir généralement, et deux, on a très très peu de chances de survie si on a un comportement qui est réellement aberrant.
Alors il y a beaucoup de mails d'auditeurs au sujet des zoos, justement. Patrice nous dit, l'enfermement ne peut qu'engendrer les prémices de la folie. Pensez-vous que les zoos qui se targuent d'être les défenseurs des animaux en voie de disparition puissent de manière acceptable remplir un rôle positif? Et puis du côté de Catherine, elle nous dit, l'utilisation de tigres dans des émissions comme Fort Boyard, dans des spectacles de zoos, fait l'objet de nombreuses pétitions dénonçant le risque de perturbation des animaux. On sent quand même, on lisait pas ces messages-là
non,
il y a 5 ans.
Tout à fait, les choses changent et cette prise de conscience, elle est très intéressante. Et à la fois, il faut quelque part la borner. Je vais vous dire pourquoi. Ce que je pense, c'est que dans les zoos, effectivement, il y a souvent des conditions qui vont induire des états anxieux et des états dépressifs. C'est-à-dire des conditions qui ne sont pas acceptables, qui ne sont pas conformes aux exigences de l'espèce. Et donc, mais ce n'est pas ça qui va faire la folie. Ce n'est pas ça qui va rendre un animal, qui va le faire avoir des états de déréalisation. Hein, dans le 13 minutes, j'en parle, mais c'est vraiment un sujet qui m'intéresse beaucoup. Ce fameux orque qu'on appelle Tilikum et qui a tué 3 soigneurs, qui a tué 3 personnes, puisque le 3e n'était pas un soigneur. Il est responsable de 3 morts sur 4 provoquées par des orques. On ne peut pas penser que Tilikum, c'est juste les conditions qui l'ont rendu comme ça. Sinon, dans tous les parcs où il y a des orques, il y aurait des tas de morts. D'accord ? Donc voilà, il y a 2 choses différentes. Bien sûr, les zoos induisent par les conditions parfois inacceptables un risque d'anxiété et de dépression, mais il y a des zoos qui travaillent aussi super bien. Donc voilà, il faut être prudent là-dessus.
Claude Beata, justement, on va écouter un extrait du film Blackfish, l'orque tueuse, où on évoque un des épisodes tragiques, absolument.
Elle descend jusqu'à une sorte de plateforme rocheuse pour ce qu'on appelle un numéro relationnel, une séance de détente où on caresse l'animal.
Tilikum l'a attrapé par l'avant-bras gauche et a commencé à tirer. Puis il a tourné sur lui-même et l'a entraîné sous l'eau. Au départ, c'était peut-être un jeu. Toujours est-il que ça a dégénéré en un comportement extrêmement violent. À la fin, il ne jouait plus du tout. Il l'a mise en pièces.
Arrachement, lacération, abrasion, fracture. Fracture accompagnée d'hémorragie, traumatisme. Sur l'ensemble du corps et aux extrémités. Et lisant ce qu'il avait infligé à la dresseuse, je n'arrivais pas à comprendre. C'était atroce.
Claude Beata, est-ce qu'on a compris les causes de ce comportement de cet orque ?
Non,
est-ce que c'est son environnement ou pas ?
Mais non, enfin, pour moi, non. Cet extrait-là, alors, le choix est remarquable. Cet extrait-là, il dit bien, je n'ai pas pu comprendre, parce qu'il faut savoir que le lien avec cette dresseuse était vraiment très très fort. Elle disait qu'elle n'avait jamais eu un orque aussi intelligent à faire travailler. Leur lien ensemble, ils se comprenaient vraiment d'un coup d'œil. Alors après, je ne veux pas rentrer dans le débat sur les conditions, mais un orque qui va pas bien dans un delphinarium, vous voyez sa nageoire caudale qui est repliée, il est triste, il veut plus faire les tours, d'accord, il va avoir des signes, il peut avoir par exemple une sensibilité aux infections respiratoires, il va y avoir des tas d'éléments qui vont montrer qu'il est en état de névrose, puisqu'on va employer ce terme, qu'il est anxieux ou dépressif. Mais là, ce qui se passe, c'est pas ça. Cet orque, et quand on regarde le film en entier, on s'aperçoit qu'on a des éléments pour dire cet orque, par moment, il change d'humeur et de façon totalement à la fois imprévisible et sans aucune régulation. Ça, pour nous, c'est des éléments soit d'un trouble bipolaire, soit d'un trouble dissociatif, mais en tout cas, d'une vraie pathologie psychiatrique.
De l'orque au chien, on va prendre un autre exemple, vous allez voir, avec un extrait très amusant qu'a trouvé justement Stéphanie Texier pour cette émission, c'est la comédienne Maria Pacôme qui nous parle de sa relation avec son chien.
Bah, elle ne comprend pas parce que c'est une chienne qui est complètement branque. C'est vrai, on me l'a imposée il y a 6 ans maintenant, elle a 6 ans. C'est pas la chienne de mes rêves. Elle est folle, d'ailleurs le vétérinaire me l'a dit, elle est un petit peu déphasée.
Canel !
Alors, elle a tous les défauts. Elle est voleuse, elle ouvre les portes, elle abîme tout. Alors, on a mis les trucs là pour ouvrir les portes à l'envers. Elle a appris à les ouvrir, à s'en servir à l'envers. Mais c'est fou !
Est-ce qu'elle mord ?
Quelquefois. Les fesses du facteur, de temps en temps. Et par contre, elle fait la fête aux vagabonds. Elle a aucun sens des nuances. Mais c'est notre faute, tout ça. On n'est pas fait du tout pour avoir des bêtes. On est fait pour les aimer, bien sûr, mais il n'y a pas que ça. On ne sait pas. C'est pas tout de donner la pâtée, de la caresser. Il faut savoir aussi se faire obéir. Et la chienne n'en serait que mieux. Elle en serait plus équilibrée, certainement. C'est pas elle qui est fautive, c'est nous.
Non, mes primes verts en douille.
Alors là, je n'ai même plus de joli jardin. Elle m'a foutu toutes mes fleurs en l'air. Mais tout. J'ai eu presque pas de tulipes cette année à cause d'elle. Ah, je l'aime avec colère. Voilà.
Canel, Canel. Canel, merde!
Voilà, c'est en 1976. Maria Pacôme, Canel un peu déphasé, mais pas si folle que ça, puisqu'elle arrive à ouvrir les portes avec des portiers, des poignées inversées.
Le tableau clinique est presque suffisant pour faire un diagnostic.
Elle est très intelligente, cette chienne,
alors,
non?
Cette chienne, vraiment, hein, vous savez qu'on ne va pas s'amuser à faire des diagnostics par
sauvage.
Téléphone ou sauvage, ouais. Mais vraiment, ça ressemble tellement à un tableau de ce qu'on appelle le syndrome hypersensibilité-hyperactivité. Ça me permet vraiment de souligner que ces chiens-là, qui sont vraiment des chiens fous, mais gentiment fous, ceux-là, ils ne sont pas coupés de la réalité. Simplement, ils n'ont pas de filtre sensoriel, ils réagissent à toutes les stimulations. Donc, ce qui leur sauve souvent la vie, c'est que ce sont des chiens très amusants, ouais. Jusqu'à un certain point. Ouais. Hein, mais ils ont une imagination incroyable pour faire des bêtises, ils sautent sur les tables, sur les plans de travail pour voler la nourriture parce qu'ils n'ont pas non plus d'arrêt de leur appétit, donc ouais. Ils sont tout le temps en train de dévorer, ils détruisent tout. J'ai soigné un chien il y a quelques temps, le propriétaire avait voulu... Sa femme ne le voulait plus dedans parce qu'il faisait trop de dégâts. Et donc, il lui avait construit une niche et il lui avait mis des lambris, vous voyez. Pour moi, il lui avait fait une jolie niche. Il a ouvert la porte le lendemain matin. Tous les lambris étaient posés devant la porte. Et le jour d'après, d'un seul coup, les plombs ont sauté dans la maison. Et il a ouvert la porte et le chien était comme dans un dessin animé avec les poils tout noirs parce qu'il avait mangé les prises électriques à l'extérieur. Ces chiens, ces syndromes HSHA, ils se traitent parfaitement. Mmh. Les gens nous disent, c'est pour ça que j'avais écrit mon premier livre, parce qu'une propriétaire de chiens hyperactifs m'avait dit, mais il faut en parler, parce que ces chiens, on peut les soigner.
Alors, on traite ça comment? Avec une éducation renforcée, avec plus d'autorité ou avec des médicaments?
Alors, vous voyez que Maria Pacôme, là, elle se sent coupable.
Ah hein. Oui, elle le dit, c'est notre faute.
C'est notre faute, on n'a pas réussi à l'éduquer. C'est inéducable, un chien hyperactif.
Ah bon?
Tant qu'on l'a
donc
pas traité avec des médicaments. Et alors après, les médicaments, c'est jamais seul. Hein. Donc, on donne les médicaments, on met en place une thérapie comportementale, et ces chiens redeviennent normaux au bout de... Alors attention, il faut bien dire à nos auditeurs, c'est 12 à 18 mois de traitement. Un chien hyperactif comme la fameuse Canel de Maria Pacôme, c'est au moins 12 à 18 mois de traitement, mais ça se règle. Au bout du compte, on arrête les médicaments et on a le chien le plus extraordinaire.
Jean sur Facebook nous dit « Les deux chiens de mon voisin aboient, pleurent chaque fois que leur maître part, mais ils se calment à son retour. Peuvent-ils être soignés ?»
Alors, bien sûr.
Même chose.
Bien sûr. C'était un des arguments de Au risque d'aimer, c'était le fait que... Et ces chiens-là sont souvent euthanasiés parce que quand un chien pleure pendant 8 heures...
Il y a des problèmes de voisinage.
Le voisinage, au bout d'un moment, alors quand les gens habitent un appartement, il y a le syndic, enfin bref, ça se passe très très mal. Certains hurlent, certains détruisent, certains sont malpropres, bref, tout ce qu'il faut pour pas être gardé. Quand ce sont des vrais troubles de l'attachement qu'on appelle aujourd'hui des autonomopathies, parce que ces chiens ne sont pas autonomes, ils n'arrivent pas à rester seuls, eh bien, on les traite, et on les traite avec un taux de succès là qui dépasse les 80%.
Ouais. Alors ça, c'est étonnant, Claude Beata, parce que vous parlez des troubles de l'attachement, donc en rapport avec la théorie de l'attachement, dont on a beaucoup parlé dans cette émission, qui est à la base quand même des relations humaines aussi, et de la confiance que les êtres peuvent avoir entre eux, avec la sécurité ou l'insécurité. On peut en parler de la même manière pour les animaux?
Alors, non seulement on peut en parler de la même manière à l'intérieur de l'espèce, mais on a des études qui ont montré que l'humain devient pour le chien un refuge et une base de sécurité, hein, exactement comme dans la théorie de Bowlby, que donc on peut réellement parler d'attachement interspécifique et que c'est vraiment à la fois une des racines majeures de l'équilibre, de ce qui fait qu'on a des chiens. Hein, parce que quand on a des chiens, je crois qu'on le sait tous les deux, c'est aussi pour avoir cette relation forte avec eux. Et du coup, cette force, c'est aussi, ça peut être une de leurs fragilités et les troubles de l'attachement déclenchent ce que vous avez décrit.
Alors Clément dit, le sevrage pas ou mal fait n'est-il pas un élément essentiel dans les problèmes psychiatriques des animaux? Il parle de l'un de ses chats en particulier, alors, qui a été dès l'âge de 2 semaines environ.
Tout à fait, tout à fait. On a, et alors c'est notamment une des racines de l'hyperactivité, c'est le fait que la mère n'ait pas été présente avec ses chiots pendant le 2e mois. Chez les chats, c'est encore plus précoce, parce que la mère apporte les régulations. Et là, on connaît à la fois le côté comportemental, la mère est là et elle indique les régulations, elle régule ses chiots. Et au niveau neurobiologique, c'est le moment de la stabilisation sélective, où tous les neurones qui n'ont pas été assez stabilisés, les connexions vont être éliminées. Et donc, on a vraiment quelque chose de primordial, les conditions de développement sont primordiales.
Claude Beata, l'invité de la Tête au Carré, pour parler de la folie animale et vos mails qui nous intéressent beaucoup. Vos témoignages sur franceinter.fr et sur le mot-clé l'attaque.
Je me baladais, j'étais perdu. Quand je t'ai croisé, belle inconnue. D'un simple regard, j'ai deviné le parfum fragile d'un cœur brisé. Si seulement
Ah, depuis quelque temps, mon chien m'inquiète. Il se prend pour un être humain. Et je n'arrive pas à m'en dissuader. Mais que lui se prenne pour quelqu'un, hein? C'est un peu abusif. Enfin, quoi est-ce que je me prends pour un chien, moi? Quoique, dernièrement, il s'est passé une chose troublante qui m'a mis la puce à l'oreille. Je me promenais avec mon chien, c'est que je tenais en laisse, et je rencontre une dame avec sa petite fille. Et j'entends la dame qui dit à sa petite fille, « Va, va, va caresser le chien !» Et la petite fille est venue me caresser la main. Alors moi, je lui faisais signe qu'il y avait erreur sur la personne. Que le chien, c'était l'autre. Mais la petite fille a continué à me caresser gentiment la main. Et la dame a dit, « Tu vois qu'il n'est pas méchant !» Et mon chien, lui, qui n'aura jamais une occasion de se taire, a cru bon d'ajouter, « Il ne lui manque que la parole !»
Voilà, extrait d'un sketch de Raymond Devos, « Mon chien, c'est quelqu'un », qui pourrait d'ailleurs tout à fait illustrer cette société de psychiatrie comparée, Claude Beata, au fond. Hein.
Oui, et puis le fameux « Il ne lui manque que la parole », si vous voulez, en fait, il manque la parole, mais il ne lui manque pas les facultés de communication,
ouais.
Il ne lui manque pas le langage, on pourrait beaucoup en discuter, mais les chiens émettent des tas de signaux, des aboiements, bien sûr, mais aussi des postures, etc., qui leur permettent parfaitement de communiquer. Et je crois qu'il y a une vraie connaissance de la part de la plupart des propriétaires du discours de leur chien, qui savent très bien. Moi qui vis avec un fox terrier un peu actif,
oui.
Il est tout à fait capable de décrocher sa laisse et de l'amener pour dire bon, voilà, donc pas besoin de parler pour comprendre.
Ouais. Hein. Cette société de psychiatrie comparée, que vous avez fondée avec Boris Cyrulnik donc, et André-Laurent Parodi, c'est vraiment pour mettre en parallèle les comportements, les émotions humaines et animales.
Voilà. Si vous voulez, nous, ça fait plus de 20 ans qu'on travaille, notamment le premier modèle, ça a été vraiment le modèle hypersensibilité, hyperactivité, hein, notamment Nathalie Marlois, la présidente de Zoopsie, a beaucoup travaillé là-dessus, avec Olivier Revol, je crois que...
Ouais.
Hein, et où vraiment, c'est un modèle extrêmement intéressant, parce que les symptômes se ressemblent beaucoup. Vous voyez, par exemple, juste un exemple, Olivier Revol est venu faire cours au diplôme de psychiatrie, et on lui a posé la question, parce que chez les enfants hyperactifs, on parle peu de sommeil, en fait. Alors que nous, nos hyperactifs, il y a vraiment une chose qui est marquante, c'est qu'ils dorment beaucoup moins que les autres.
Oui. Hein.
Quand c'est des stades 2, ils dorment moins de 8 heures par jour, ce qui pour un chien est très très peu. Et en fait, ça les a intrigués, et très récemment, il est sorti un papier qui montre que chez l'enfant aussi, le sommeil est touché.
Ouais.
Donc, les choses sont comparables. On a des cerveaux qui ne sont pas les mêmes, alors on fait très attention à ça, mais où les structures fondamentales se ressemblent. Il n'y a pas de raison objective pour que ce qui existe chez l'un n'existe pas, au moins à l'état de prémisse, chez l'autre.
Et le cerveau de l'orque et de l'humain, il y a des choses à comparer aussi ?
Alors là, très clairement, ils ont un plus gros cerveau que nous,
ouais.
Notamment certaines baleines, certains orques, le dauphin en proportion, mais le dauphin a un cerveau énorme, évidemment les éléphants, évidemment. Et comme par hasard, ce sont chez ces animaux à très gros cerveau, avec notamment aussi beaucoup de circonvolutions, qu'on va retrouver des reconnaissances du miroir, vous savez, dans
la conscience de soi.
Alors,
fond,
qui est la fameuse conscience
quand
de soi.
Quand l'animal a conscience de lui-même.
Voilà. Alors, on peut en parler beaucoup parce qu'évidemment, le chien rate le test du miroir, mais dans un monde de chiens, la vision a relativement peu d'importance.
Ouais.
Par contre, quand on fait faire à des chiens des tests de reconnaissance de soi avec des odeurs, ah ben là, ils sont bien meilleurs que nous.
Ouais. Aurélie dit, si les hommes ne réagissent pas tous de la même manière face à des conditions de vie difficiles, ne serait-ce pas le cas aussi pour des orques? Je veux dire par là qu'un orque qui va mal peut avoir la nageoire dorsale abîmée, mais pourquoi certains ne pourraient pas devenir agressifs?
Agressifs, bien sûr, elle a raison. Hein. Dans les cas d'anxiété intermittente, il peut y avoir de l'agression. Ce qui est marquant dans le type d'agression de Tilikum, une fois de plus, je ne l'ai pas vu en vrai, hein, j'aurais adoré, mais il est mort malheureusement le 7 janvier. Mais dans le cas de Tilikum, c'est le défaut de régulation, la perte de contrôle qui est très bien décrite dans l'extrait que vous avez donné, où alors qu'il a un lien fort avec cette dresseuse, quand il l'attaque, ceux qui n'ont pas vu Blackfish, regardez-le, la liste des lésions est assez impressionnante.
Dans cette conférence 13 minutes, hein, justement, qu'on peut voir aussi en lien sur la tête au carré, vous faites référence à une lionne très particulière. On peut parler de folie chez cette lionne aussi ou pas? Parce qu'on voit que son comportement est très inhabituel,
oui.
Parce qu'elle a sympathisé avec des herbivores. Hein.
Non seulement elle a sympathisé,
elle les protège,
elle protège des bébés oryx. Hein, donc, à tel point qu'alors là, c'est pas tout à fait en milieu naturel, hein, c'est dans un grand parc, mais vous savez où en principe le personnel n'intervient pas, elle laisse vraiment la vie sauvage se faire. Et un jour on voit, et en plus je crois que c'est une veille de Noël, donc l'histoire est trop jolie, cette lionne que du coup les Africains ont appelée Kamouniak, ce qui veut dire la sacrée, protéger un bébé oryx contre les autres lions. Et voilà, elle le protège. Le problème, c'est qu'au bout d'un moment, elle ne peut pas le nourrir, hein, puisqu'elle même n'a pas de lait. Et donc, le bébé Oryx, et finalement, va lui être volé par un lion, mais je crois au bout de 13 ou 14 jours. Ouais. Jusque-là, l'histoire est très jolie. Ouais. Là où ça devient bizarre, c'est qu'à partir de là, Camoniaque, elle s'est mise à voler des bébés Oryx, qui, eux, n'avaient besoin de personne, qui étaient avec leur mère, etc. Elle les empêchait de rejoindre leur mère, etc. Et alors que ce n'est pas la règle, finalement, les gardiens sont intervenus au bout du sixième bébé Oryx, qui était mort parce qu'il était séparé. Donc là, elle avait un comportement qui était totalement anormal au sens statistique, un peu fou. On serait bien allé regarder du côté de son appareil reproducteur, de ses ovaires, voir s'il n'y avait pas des choses un peu bizarres. Parce que la folie, elle est aussi liée à l'état du corps, bien sûr.
Oui. Une question d'Olivia. Comment analysez-vous le cas de l'ours Knut rendu fou par la médiatisation au zoo de Berlin? Est-ce que c'est vraiment ça qui l'a fait mourir,
alors,
d'ailleurs?
Aux dernières nouvelles, il est mort d'une maladie auto-immune, donc c'est pas ça. Mais c'est vrai que, bon, je crois qu'il était trouvé extrêmement mignon, il avait été beaucoup photographié. Là, ça peut vraiment porter atteinte à sa qualité de vie.
Oui.
Est-ce que ça a pu baisser son système immunitaire au point de favoriser cette maladie auto-immune? Je n'ai pas les éléments pour vous répondre, mais en tout cas, la qualité de vie est très importante pour l'équilibre aussi physique.
On part en consultation à l'école vétérinaire de Maison Alfort. C'était diffusé dans le Téléphone Sonne en 2010.
Bonjour.
Ici, pas de théorie, les étudiants vont plancher sur un cas bien réel, celui d'un jeune chien réputé agressif.
C'est lui la terreur, alors?
La terreur, Hugo, un Jack Russell terrier. À la maison, Hugo grogne. Hugo pleure.
Non.
Et Hugo passe son temps à se cacher aux grandes dames de ses propriétaires.
Le 14 juillet, il était effrayé par les pétards. Quand on allait le chercher, il se cachait. Et là, il était prêt également à nous bouffer. C'est-à-dire que quand il a décidé de ne pas sortir, il est prêt à tout pour nous terroriser.
La consultation doit durer presque 2 heures, le temps de trouver l'origine des troubles du chien. Et Hugo n'est que le premier patient de la journée.
Voilà, c'était pas le Téléphone Sonne, c'était Télé Essonne qui avait diffusé ce reportage. Claude Béata, un commentaire?
Oui, alors il y a plusieurs façons d'aborder les troubles du comportement. Il se trouve qu'actuellement, à l'école vétérinaire Maison Alfort, c'est une approche qui n'est pas une approche celle que je vous ai décrite. On ne parle pas de psychiatrie vétérinaire à l'école vétérinaire d'Alfort. Et c'est souvent les propriétaires qui sont mis en cause. Donc c'est quelque chose qu'on ne partage pas. Mais ce qui est important, de toute façon, c'est qu'on parle des troubles du comportement, qu'on les prenne en compte d'une façon ou d'une autre. Mais si en plus, on peut être dans une façon rationnelle, objective et médicale, on préfère.
Mais enfin, les maîtres, quand même, on l'entendait tout à l'heure avec Maria Pacôme, ils ont quand même un petit peu leur responsabilité dans le comportement.
Ah ben, Maria Pacôme, typiquement, si c'est un vrai syndrome hypersensibilité-hyperactivité, elle y est pour rien. J'ai beaucoup plus souvent à dire à mes clients, mon Dieu, mais je ne sais même pas si j'aurais pu avoir votre courage, votre patience, parce que vivre avec un chien hyperactif ou vivre avec un chien syndrome de privation, c'est pas facile. Les gens souvent ont une très grande implication, d'accord, que à pointer du doigt des fautes qu'ils auraient pu commettre. Et le plus souvent, s'il y a quelque chose, c'est pas une faute, c'est une erreur, c'est-à-dire que c'est une méconnaissance de ce qui se passe pour l'animal, et donc un contresens, on pourrait dire presque un contresens culturel entre les deux espèces, parce que voilà, on a fait quelque chose que le chien a compris d'une autre façon. Je dirais que pas plus d'un tiers des troubles sont des troubles liés à la relation. Mais on parlait de ce chien qu'on ne peut pas laisser seul. Ça, par exemple, il y a des façons de faire pour empêcher que les chiens deviennent hyper attachés. On peut parler aussi de troubles autour de la hiérarchie, de la place, de la position sociale pour l'animal, où il y a des façons de faire pour que pour le chien, les choses soient claires et ne soient pas génératrices d'anxiété. Voilà. Mais la responsabilité des maîtres, elle va généralement pas beaucoup plus loin.
Jean-Paul dit, les loups qui vivent en meute organisée peuvent-ils devenir fous à cause de la chasse impitoyable dont ils font l'objet? Est-ce que ça peut désorganiser justement
alors,
un groupe social?
Ça peut organiser. Les loups, franchement, je n'en ai aucun exemple. Mais par exemple, on connaît des cas chez les éléphants. Je cite aussi dans Risque d'aimer tout à la fin. Les éléphants, quand il y a eu des braconnages totalement
massif.
Ouais. Souvent, les parents, les mères, les matriarches sont tués et des jeunes éléphants sont livrés à eux-mêmes sans plus aucune régulation. D'accord ? Et cette absence de régulation va déclencher des troubles. on voit ces animaux. Par exemple, il y a souvent des espèces de paix armée entre les villages et les éléphants. Les éléphants ne passent pas dans les villages, ils passent un peu plus loin, etc. Ces jeunes qui n'ont pas appris font des dégâts considérables dans les villages. Hein, comme si c'était vraiment une désocialisation.
Il n'y a pas eu transmission, en tout cas.
Il n'y a pas eu de transmission.
Ouais. Catherine, sur Facebook, dit « Est-ce que reconnaître une pensée à l'animal, lui reconnaître une individualité, peut se rapprocher de la conception des peuples primitifs qui respectaient l'âme des animaux ?»
En tout cas, c'est notre voie, c'est de reconnaître une pensée, une conscience, une individualité, très clairement. Alors, après l'âme, moi je suis provençal, en Provence, on bénit les animaux aussi, pourquoi pas, mais voilà.
Et l'inconscient chez l'animal,
ah oui,
on parlait de psychanalyse tout à l'heure.
Alors l'inconscient c'est amusant parce que d'un côté certains ne veulent pas prêter de conscience à l'animal et de l'autre côté les psychanalystes ils ne veulent pas lui prêter d'inconscient. Il faut bien que ce pauvre animal ait quelque chose. Je crois qu'il a du conscient et de l'inconscient exactement comme l'humain, à part qu'on ne va pas accéder à son inconscient par la parole mais par la production de certains de ses comportements.
Ils rêvent nos animaux aussi ?
Oh bien sûr. Ouais. Le chat rêve beaucoup plus que nous. Hein. Le chat est un champion du monde de rêve avec à peu près 200 minutes de sommeil paradoxal quand nous on n'en produit que 100 minutes. Donc il rêve. C'est pareil. Par exemple, un de nos éléments de sémiologie, chez le chien hyperactif, les gens ne voient pas arriver leur chien. Et quand on traite leur animal avec certains psychotropes, une des premières choses qu'ils voient arriver, c'est le retour du rêve qui signe un accès à un sommeil profond, beaucoup plus réparateur.
En tous les cas, on peut aider nos animaux de façon très concrète.
Sans aucun doute.
Il y a des molécules pour ça aussi qui les aident beaucoup dans un premier temps, avant de les abandonner, vous le disiez tout à l'heure. Les molécules, pas les animaux, évidemment, pour un état redevenu normal.
C'est important à dire, le traitement n'est pas à vie.
Ouais. Absolument. Merci Claude Beata. Au risque d'aimer, donc on peut lire ce livre, préface de Boris Cyrulnik justement, Des origines animales de l'attachement aux amours humaines, et c'est paru en 2015, il est toujours disponible chez Odile Jacob. Merci, bonjour.
Tous ceux qui veulent nous rejoindre dans la société de psychiatrie comparée qui n'est pas réservée aux vétérinaires et aux médecins peuvent aller sur le site sociétépsychiatriquecomparée.fr.
Et bonjour à vos fox terriers. À très bientôt Claude Beata.
Merci beaucoup.
14h47 sur France Inter, c'est l'heure de la campagne officielle pour les législatives.